ici, la maman de Marie-Jo Jeanneret, qui a eu un gros, gros pépin de santé. Ça fait un infarctus, et Marie-Jo est partie la voir.
Excusez-moi, monsieur l'abbé, j'ai eu des nouvelles tout à
Agréable.
l'heure, si je peux me permettre. Elle était rentrée, Marie-Jo, elle vient de rentrer là, vers 8 heures, parce que ça ne servait à rien qu'elle reste, mais ils lui ont donné un traitement, et c'était quand même... Il faut qu'elle supporte le traitement, mais ça n'allait pas trop mal hein, par rapport à l'annonce qu'elle avait eue ce matin. Le cœur lâchait. Donc elle, ça ne servait à rien qu'elle reste là, pour nous dire.
La maman de Marie-Jo et Franck Marie-Jo, les intentions. Je vous salue, Marie.
Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Père, Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, la dernière fois, donc, vous vous en souvenez, j'espère, donc nous avions lu ces quelques versets qui vont.
Quelle
bonne
idée, je le ferme, hein.
Ah oui, bien sûr.
Ah, c'est bien.
Qui vont de la sortie de Jésus, donc qui sort de Jérusalem pour s'engager sur son chemin de croix, et nous étions allés jusqu'au crucifiement. Donc on avait parcouru le chemin de la croix. On s'était arrêté donc sur les souffrances du Seigneur, à la lumière aussi du Saint-Suaire. Donc je vous encourage beaucoup effectivement à lire la Passion du Seigneur en ayant sous les yeux une image suffisamment claire et suffisamment bonne du Saint-Suaire et de mettre les deux en correspondance. Je pense que c'est très fructueux. Nous avions dit justement que l'évangéliste Saint-Marc s'arrêtait assez peu à la description détaillée des souffrances du Seigneur, parce que son but n'était pas tant d'émouvoir la sensibilité que de nourrir la foi. Et son but n'était pas de décrire la mort d'un héros, mais de décrire cette œuvre de la rédemption, effectivement, qui passe par la croix, mais qui va jusqu'à la résurrection. Donc on avait vu ces souffrances du Seigneur. On avait vu aussi que ce texte, notamment à travers la figure de Simon de Cyrène, nous invitait à être disciples. Donc je vous rappelle cette phrase des soldats qui tirent les vêtements au sort et qui disent « Qui prendra quoi ?» Voilà. Donc cette phrase des soldats « Qui prendra quoi ?» qui est un appel finalement pour nous. Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va prendre les vêtements comme les soldats? Où est-ce qu'on va prendre la croix avec Jésus? Et c'était donc Simon de Cyrène qui est l'exemple par excellence du disciple. Voilà, Dieu choisit qui il veut et donc il choisit Simon de Cyrène pour prendre la croix du Christ. Et à l'opposé, donc on avait dit que ceux qui avaient demandé à être à la droite et à la gauche de Jésus, donc Jacques et Jean, eh bien, ne sont pas là, mais ce sont les malfaiteurs qui sont à la place de Saint Jacques et de Saint Jean. Alors peut-être une précision sur que signifie prendre la croix, puisque c'est un des termes clés qui revient plusieurs fois dans ce passage. Eh bien, prendre la croix, c'est, on pourrait dire, être avec Jésus en toutes circonstances, dans la joie comme dans les peines, dans les épreuves comme dans les triomphes. Et prendre la croix, c'est ne rien préférer à l'amour du Christ. C'est-à-dire, si pour suivre le Christ, eh bien, je dois m'engager sur un chemin difficile, eh bien, je m'engage à la suite de Jésus. Prendre la croix, ça ne veut pas dire que toute notre vie n'est que peine et tourment, mais ça veut dire qu'on suit Jésus partout où il va. Et que, eh bien, voilà, si la volonté de Dieu, si mon devoir d'État, si la suite du Christ, eh bien, me fait passer par un chemin difficile, eh bien, je prends ce chemin, plutôt que de quitter le Christ et de reprendre le chemin facile. Et puis on avait dit un petit mot aussi du lieu, donc le Christ qui est crucifié en dehors des murs de Jérusalem. Et donc on avait dit que cela s'inspirait de l'animal qui dans le Lévitique, donc le bouc, notamment le bouc émissaire, est chargé des péchés et envoyé dans le désert, et ainsi le camp est purifié. Et donc, finalement, voilà, Jésus eh bien, est celui qui prend sur lui tous nos péchés pour que le monde, qui est représenté par Jérusalem, la cité sainte, eh bien, que le monde entier soit purifié. En même temps, voilà, Jérusalem a un peu une double symbolique, parce qu'elle est à la fois cette cité sainte qui est purifiée par le sacrifice de Jésus, qui prend sur lui tous nos péchés, et en même temps, Jérusalem représente aussi l'incrédule. Et c'est pourquoi saint Paul nous dit qu'il faut suivre Jésus et sortir du camp, c'est-à-dire sortir de la Jérusalem incrédule qui refuse le Christ. Donc, un peu une double symbolique. On peut voir Jérusalem de manière positive, comme la cité sainte qui est purifiée par le fait que le Christ eh bien, prend sur lui les péchés et sort de Jérusalem, comme le bouc eh bien, voilà, sortait du camp en emportant les péchés du peuple, où on peut voir Jérusalem au contraire comme celle qui ne reconnaît pas son Seigneur, celle qui refuse de croire. Et dans ce cas-là, c'est une autre symbolique qui se met en place où saint Paul nous dit effectivement qu'il faut quitter les incrédules et suivre Jésus en dehors de Jérusalem. Alors je vous avais demandé, enfin je vous avais proposé de lire pour aujourd'hui la suite de la Passion, et je vous avais dit donc qu'il y avait une petite subtilité à remarquer. Alors est-ce que vous l'avez remarqué ? Tout le monde a oublié du coup. Mais vous n'avez pas repéré de subtilité. Tout simplement, parce qu'on passe directement du verset 27 au verset 29. Alors, non, c'est...
C'est une faute de frappe, on l'avait vu.
Non, mais c'est pas du tout une faute de frappe. Ah, mais il n'y a que ce texte qui flotte sur les têtes. Parce qu'en fait, le verset 28, justement, et son authenticité est contestée. Alors, il est juste, en fait, une citation d'Isaïe. Saint-Marc nous dit, voilà, il a été mis au nombre des infâmes, qui est une citation du prophète Isaïe. Mais, voilà, comme cette citation, on ne sait pas si c'est vraiment Saint-Marc qui l'a introduite, ou si c'est un auteur postérieur, un scribe, qui l'aurait rajouté. Donc, il n'y a pas de verset 28 dans cette édition.
On va le dire entre parenthèses. Ah, ainsi, allez. Tu as compris l'écriture qui dit il a été mis au rang des malfaiteurs. Et un truc en bas. Mais ce verset manque dans les meilleurs manuscrits.
Vous n'avez que le meilleur, ici.
Mais oui, mais j'ai pas une explication.
Ça.
Alors, non, mais moi, quand même, je pensais que c'était. J'ai cherché des choses plus subtiles. Mais en fait, ce qui m'a choqué, la première lecture, c'était. Mais ceux qui étaient crucifiés avec lui, ils l'insultaient. Ouais. Parce que ça veut dire que le bon larron aussi.
Ah, mais ça peut être une subtilité, mais disons, il y a deux choses qu'on peut présenter. La première, c'est qu'effectivement, peut-être que le bon larron, au départ, insulte, et puis plus la passion avance, plus il change. C'est une première explication possible. La deuxième explication possible, c'est aussi... Saint Matthieu et sans doute aussi Saint Marc généralisent beaucoup plus que Saint Luc, c'est-à-dire que ils entrent moins dans les détails et donc ils brossent un peu le tableau général sans s'arrêter vraiment aux personnages.
Parce que là, ça n'apparaît pas du tout là,
Non, ça n'apparaît que dans Saint Luc.
C'est quand même gênant. Enfin, on est tellement habitué à.
Oui, mais de même que le j'ai soif n'apparaît pas dans Saint Marc, de même que le voici ta mère n'apparaît pas dans Saint Marc. C'est-à-dire que nous on a une vision un peu de la passion à travers les quatre ou à travers les quatre évangélistes. On a une espèce de fusion, mais en fait chaque auteur a ses sources. Donc Saint Marc n'est pas sans doute sur le Golgotha, donc il a forcément entendu. Donc ça restreint un petit peu le champ. Et puis il a aussi sa visée. Et en fait, Saint Marc, comme je vous disais, s'appesantit assez peu sur la description des souffrances du Christ. Il s'appesantit très peu sur les plaintes du Christ. On ne voit pas le Christ se plaindre, etc. Et du coup, ce silence du Christ souligne encore plus le cri « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'en fait, il y a une espèce de silence du Christ à travers tous les tourments et toutes les souffrances absolument horribles. Et il y a à la fin ce cri qui résume un peu tout. Et donc, d'une certaine manière, Saint Marc conduit la passion pour que ce cri explose avec encore plus d'intensité. Et de même, il s'arrête assez peu aux autres personnages, mis à part Simon de Cyrène, dont on dit qu'il est un peu la figure du disciple. Donc il y a un peu Simon de Cyrène, figure du disciple, qui est mis dans la lumière, et pour souligner cette lumière, le reste est encore plus ténébreux, en quelque sorte. Hein. Et tout le monde se ligue contre le Christ. Donc, effectivement, les crucifiés, les passants, les prêtres, les scribes. Et donc, il y aura Simon de Cyrène au début, et, comme on verra, à la fin, le cri du centurion, qui, pareil, vient, par sa profession de foi, celui-ci était vraiment fils de Dieu, vient en quelque sorte combattre tout ce qui avait été insulte et obscurité jusqu'à présent. Donc c'est une espèce d'écriture en contraste où les choses sont vraiment très très tranchées. Et du coup, il ne rentre pas effectivement dans les détails de dire il y a un larron qui était bon, un larron qui était mauvais, etc.
Il rentre dans le détail des heures. Il est quand même extrêmement précis sur les heures.
Ah, effectivement, il rentre dans le détail des heures.
C'est impressionnant, parce qu'à chaque fois, il donne des codes.
Oui, il était très marqué par les heures. Alors, il y a plusieurs explications. Il y a le fait que ces heures étaient des heures de prière, peut-être chez les juifs. Mais la question des heures, en fait, elle reste difficile parce que Saint Jean ne donne pas les mêmes heures. Donc c'est sûr que ça rend un peu la question compliquée.
On ne parle pas non plus de Saint Marc, du percement du plan de Jésus par.
Après, il y a beaucoup de choses qui sont propres à Saint Jean, parce que Saint Jean est témoin oculaire de la Passion, ce que ne sont pas les autres. Donc forcément, quand vous assistez à la Passion, vous en gardez un souvenir quand même beaucoup plus fort, et donc qui vous permet d'écrire une Passion beaucoup plus précise et détaillée que les autres, qui ont d'autres sources. Quoi. On va peut-être se lever, parce qu'on va lire l'évangile, et on va quand même lire l'évangile de la mort du Seigneur, donc on va se lever. Et nous ferons comme à la messe, c'est-à-dire que au moment de la mort du Christ, et bien ceux qui le peuvent, je vous invite à vous mettre à genoux, et nous ferons un moment de silence. Donc nous reprenons verset 29. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau. Il lui donnait à boire en disant, « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. »
Bonsoir.
Alors, si nous progressons de verset en verset, alors peut-être d'abord je vais vous distribuer un peu. Merci, je vais bien passer ça. Oui, passer ça. C'est deux autres textes que ceux que vous avez déjà distribués, qui sont deux autres prophéties de la Passion. Donc on avait vu la dernière fois Isaïe et le psaume 21, et là c'est le psaume 68, et puis un extrait du livre de la Sagesse. Donc vous verrez pourquoi je vous distribue ces textes. J'en ai fait 20, mais je pense que c'est bon. Hein. Alors la première chose, donc au verset 29, ce sont les passants. Donc effectivement, comme on l'avait dit la dernière fois, les Romains avaient pour coutume de crucifier les malfaiteurs le long des voies de passage pour que ce supplice particulièrement horrible qu'on a décrit la dernière fois, d'asphyxie prolongée, eh bien, frappe les imaginations et fasse taire dans le cœur des rebelles tout désir de se révolter contre le pouvoir de Rome. Alors, c'est pas étonnant qu'il y ait des passants. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est que ces passants sont très hostiles à Jésus. Et notamment, ils reprennent ce qui a été dit au procès dans la nuit, vous savez, au procès juif, que Jésus aurait affirmé qu'il détruirait le sanctuaire et qu'il le rebâtirait en 3 jours. Donc on peut penser que même s'il y a des passants anonymes, comme Simon de Cyrène, qui reviennent des champs, qui rentrent dans la ville pour la fête de la Pâque, il y a aussi parmi ces passants, pour une bonne part, la foule que les grands prêtres ont mobilisée pour faire condamner Jésus. Donc voilà, il faut bien penser que ce n'est pas uniquement une foule de gens qui passent comme ça par hasard. Il y a sans doute, vu les accusations qui sont portées, dans ces passants, une partie des faux témoins que les grands prêtres ont produits dans le procès nocturne, et puis une bonne partie de la foule qui déjà a hurlé « crucifie-le, crucifie-le » devant Pilate, et qui a continué de suivre Jésus pour continuer finalement à déverser sa haine. On peut difficilement imaginer qu'un passant lambda soit au courant déjà des accusations qui ont été portées, par des faux témoins qui n'arrivaient même pas à s'entendre entre eux, donc ce n'est pas quelque chose qui était public et vraiment répandu dans Jérusalem. Donc sans doute que ces passants ne sont pas des passants innocents, mais qui font partie un peu de la cohorte des grands prêtres. Et dans les phrases de ces passants, on va retrouver quelque chose que les grands prêtres vont redire avec force, « Sauve-toi toi-même, descends de la croix. » Et ce sera complété, prolongé par les scribes et les grands prêtres. « Il en a sauvé d'autres, il ne peut se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. » Donc c'est très fort, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'enseignements finalement dans ces quelques phrases. Tout d'abord, cette magnifique reconnaissance quand même des ennemis de Jésus. Il en a sauvé d'autres. C'est pas mal, quand même. Parce que si on veut, en apologétique, s'il y a des gens qui nous disent « Ah oui, mais finalement, c'est que les disciples de Jésus, c'est que les apôtres, c'est que les successeurs immédiat des apôtres qui reconnaissent que Jésus a sauvé des gens, évidemment, ils ont tout intérêt à présenter Jésus sous un jour positif, ben, on voit que voilà, les scribes et les grands prêtres, à un moment où la sympathie pour Jésus est à peu près nulle, reconnaissent qu'il en a sauvé d'autres. On retrouve aussi dans ces phrases les deux motifs de condamnation, donc le Christ, le roi d'Israël. Vous vous souvenez, donc, on avait dit que c'était les motifs d'accusation principaux, les Juifs refusant de reconnaître en Jésus le Christ et s'appuyant sur ce titre de roi pour le faire condamner auprès de Pilate. Il se fait passer pour roi. Si tu es ami de César, tu ne peux pas tolérer cela. Mais plus profondément encore, il y a la tentation démoniaque, en fait, dans cette phrase des grands prêtres et des scribes. C'est-à-dire que dans cette tentation, finalement, cette mise à l'épreuve, puisque c'est une mise à l'épreuve, c'est-à-dire, vas-y, descends, et alors là, nous croirons. Eh bien, il y a très fortement l'écho des trois tentations du démon au désert. Et notamment la deuxième, si tu es le fils de Dieu, mais jette-toi du haut du pinacle du temple, fais un prodige, fais en sorte que les anges te rattrapent et te déposent à terre. Et comme ça, eh bien, tous les juifs rassemblés dans les cours du temple croiront en voyant ce miracle. Et donc il y a un petit peu cette même idée. Et on se souvient que Saint Luc avait dit que le démon, après avoir tenté en vain Jésus, eh bien, l'avait quitté en attendant son heure. Et donc l'heure du démon, eh bien, très clairement, elle est là. Et là, on est en quelque sorte là, au paroxysme de la tentation démoniaque, puisque ceux qui sont les plus ennemis de Jésus disent à Jésus, bien, nous croirons. Donc qu'est-ce que Jésus pourrait attendre de mieux que la foi des grands prêtres et des scribes qui entraînerait avec elle toute la foi d'Israël. Mais pour obtenir cette foi, donc à mon avis, ne serait jamais obtenue, puisqu'ils ne croiraient jamais, eh bien, il faudrait quoi? Il faudrait que Jésus renonce à la croix. Et ça, c'est l'éternelle tentation du démon, auprès de Jésus en premier, auprès de nous en second, c'est-à-dire renonce à la croix. Prend un autre chemin que la croix. Et on l'avait vu pour les tentations. Mais vas-y, fais un miracle, mange, transforme les pierres en pain et puis mange. C'est-à-dire, voilà, arrête de jeûner et ainsi montre que tu es fils de Dieu. Au lieu de faire une vie pénible, itinérante, de 3 ans de prédication qui se terminera par la croix, saute dans le vide et fais un prodige. Fais un numéro de cirque, que les anges eh bien, t'accompagnent et ainsi que les gens croient. Et puis enfin, voilà, si tu veux avoir tous les royaumes du monde, eh bien, il suffit d'un geste, qui n'est pas le geste du crucifiement, qui est un geste infiniment moins douloureux. Mets-toi à genoux, adore-moi et je te nommerai les royaumes. Donc, on retrouve finalement ce même esprit dans les phrases des grands prêtres et des scribes. C'est-à-dire, eh bien, pour que nous croyons, sois un Messie sans la croix. Détache les clous, descend, et puis ainsi nous croirons. Et donc là, on est vraiment au cœur, finalement, de la mission de Jésus. Jésus n'est pas là pour lui-même. Il n'est pas là pour faire des prodiges qui serviraient à sa gloire personnelle. Il est là pour accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père, c'est qu'il passe par la croix. Et puis, il est là surtout pour nous prouver son amour. Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc finalement, voilà, il est dans cette ultime tentation, eh bien, pour obtenir notre foi, c'est-à-dire pour finalement que ta mission soit vraiment efficace, eh bien, il faudrait que tu renonces à l'essence même de ta mission. Pour que nous ayons la foi, il faudrait que tu quittes le chemin du Père, et que tu prennes un autre chemin qui n'est plus le chemin du Père, qui est le chemin que nous voulons t'imposer. Et donc là, il y a vraiment un grand carrefour. Est-ce que je continue de suivre le chemin du Père jusqu'au bout? Eh bien, j'accepte que ces grands prêtres et ces scribes restent dans la haine, ou bien est-ce que je sors de ce chemin pour me concilier les grands prêtres et les scribes, et puis, comme je vous le disais, à travers leur foi, entraîner toute la foi d'Israël. Donc là, il y a un carrefour qui est souvent un carrefour que nous rencontrons dans nos vies. Voilà. Est-ce que finalement, je choisis le chemin de la facilité pour des résultats immédiats, ou est-ce que je choisis le chemin de la volonté de Dieu, même si eh bien, cela me conduit à des contradictions, des confrontations, à témoigner en famille, auprès d'amis, auprès de collègues, de manière plus dure, quoi. Ou est-ce que je choisis le chemin de la facilité, qui est souvent un chemin où je mets justement ma foi dans ma poche, où je mets la volonté du Père dans ma poche. Et donc, le Christ est vraiment à ce grand carrefour. Bon, évidemment, il n'y a pas beaucoup de suspense, on sait évidemment quel chemin il prend, mais c'est intéressant, vous voyez, d'entendre finalement dans ces paroles des grands prêtres et des scribes comment résonne la tentation démoniaque par excellence, et comment dans notre vie aussi, eh bien, peut résonner cette tentation d'une efficacité immédiate au détriment de la volonté du Père, d'une séduction, voilà, d'être bien admis, bien aimé, bien apprécié, voilà, mais au détriment de la volonté du Père.
Et en même temps, en fait, il y a une grande lâcheté de leur part, en fait, parce que quand on voit, il y a les passants qui hochent la tête, donc qui regardent, en fait, Jésus, et qui lui disent, vas-y, descends de la croix, mais on les sent un peu bêtes, en fait, vous voyez, c'est pas si son style, mais on n'a pas l'impression qu'il y a... Et les scribes, en fait, et les pharisiens, ils se disent ça entre eux. Ils ne regardent pas, en fait, Jésus pour lui parler en face. Et tout est, en fait, il y a ces jeux de... voir et ne pas voir, en fait. Les passants qui le voient, les scribes et les pharisiens qui ne le voient pas, et les centurions, en fait, à la fin, il était en face de Jésus, il l'a vu, en fait. C'est vraiment... voilà, tout passe, en fait, par cette rencontre, vraiment, avec Jésus. Et les scribes et les pharisiens, ils n'ont pas envie, en fait. Ils sont... Enfin, je veux dire, c'est...
Alors, ce qui est très vrai, c'est qu'effectivement, il y a dans ce passage, on verra si on arrive jusqu'aux pharisiens, effectivement, et même jusqu'aux saintes femmes, cette idée du regard est très importante. Voilà, effectivement, les scribes disent, voilà, nous croirons et nous verrons. Ceux qui se moquent de Jésus en disant, ah bah tiens, Élie, il appelle Élie, voyons si Élie va venir le sauver. Et effectivement, donc ça c'est des gens qui restent en fait complètement aveugles, et puis de l'autre côté, il y a effectivement le pharisien qui lui est en face, effectivement il y a ce face-à-face, hein, comme on disait, que Saint-Marc souligne énormément en montrant que autour de Jésus il n'y a que de l'hostilité, sauf voilà, dans ce fil d'or, en quelque sorte, qui relie le regard de Jésus, enfin le regard du centurion plutôt, à Jésus. Et lui, le centurion, eh bien, il regarde avec les yeux de la foi, avec les yeux du cœur, et il dit, cet homme était le fils de Dieu. Et il y a les saintes femmes qui observent, voilà, tout ce qui se passait. Cette importance du regard, en plus, est soulignée par le fait qu'à partir de midi, on est dans les ténèbres. Donc ça montre encore plus que le regard physique devient de plus en plus inapproprié, parce qu'on ne voit quasiment plus rien, mais que ce qui compte, c'est le regard du cœur et le regard de la foi. Que ceux qui veulent juste voir selon les apparences, comme les passants qui pensent effectivement que bah, voilà, c'est pas le Messie, puisque le Messie n'aurait jamais été arrêté, et puis comme ça, il ne se serait jamais laissé faire. Les scribes et les grands prêtres, eux, ils sont un peu dans une optique différente parce qu'ils savent quand même que Jésus a posé les signes du Messie, qu'il a fait les œuvres du Messie, mais malgré tout, malgré cette évidence, ils refusent de croire. Et ils voudraient que Jésus, en quelque sorte, les séduise, que les oblige à croire en faisant un prodige. Donc eux aussi sont dans un autre aveuglement. Et puis au contraire, effectivement, il y a le centurion qui, lui, est dans le regard du cœur. Alors, je vous ai distribué le psaume 68, hein, parce que toutes ces insultes, elles sont évidemment un accomplissement de ce psaume 68. Alors, on peut lire par exemple le quatrième verset, hein. « Plus abondant que les cheveux de ma tête, ceux qui m'en veulent sans raison. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. Moi qui n'ai rien volé, que devrais-je rendre ? Dieu, tu connais ma folie, mes fautes sont à nu devant toi. » Bon, évidemment, Christ n'a pas fait de faute. Enfin, on va voir en quel sens on peut appliquer ce psaume au Christ. Et puis, un peu plus loin, donc, deux versets plus loin, « C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Et quand on tourne la page, l'avant-dernier verset et le dernier verset, « L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. » Donc, ce psaume, il est écrit par un homme hein, qui souffre. Mais évidemment, à travers la souffrance du roi David, ou de l'auteur des psaumes, si ce psaume-là n'est pas directement du roi David, eh bien, il y a une prophétie, évidemment, il y a une préfiguration de la passion du Christ, et on retrouve, évidemment, voilà, ce thème de l'insulte pour rien, et cette idée qu'il n'y a pas de consolateur, cette idée que voilà, le Christ est seul, et qu'il est abreuvé de vinaigre.
Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la parole de notre Seigneur lorsqu'il dit « Eli, Eli, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Alors, effectivement, donc on y arrive. On y arrive. C'est évidemment une parole extrêmement mystérieuse. Et il y a de magnifiques pages dans le Carnet Journée que je vous recommande beaucoup. Les sept paroles du Christ en croix. Donc, bon, il développe sur 40 pages, donc je ne peux pas tout citer. Mais c'est vrai qu'au début, il s'adresse à Jésus en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce qui vous est passé par la tête de dire ça, alors que justement vous donniez du grain à moudre à ceux qui vous insultaient, à vos détracteurs, en se disant, mais voilà, si Dieu l'a abandonné, bah, clairement c'est pas le Messie, et encore moins le Fils de Dieu. Et le Canal Journée continue en disant, et puis voilà, et puis dans tous les siècles qui suivront, tous ceux qui nieront la divinité de Jésus s'appuieront sur ses paroles. Et donc, Carnel Journée, voilà, et dit, bah oui, il y a une part de scandale pour ceux qui ne croient pas dans ses paroles, et il dit, il y a un trésor en revanche pour ceux qui croient. Parce que dans ses paroles se révèle la profondeur et la vérité de l'incarnation. Que à la fois Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Qu'en tant qu'homme, il supplie, qu'en tant Dieu, il exauce. Ça, c'est beau comme forme de chose. C'est-à-dire que cette idée que voilà, le Christ, à la fois en tant qu'homme, eh bien, prie vraiment son Père, et en même temps, eh bien, il est Dieu, et c'est lui qui exauce la prière de tous les hommes. C'est assez incroyable. Après, voilà, cette parole, elle est particulièrement forte, particulièrement étrange. Alors, la première chose à dire, quand même, pour situer cette parole, c'est qu'elle n'est pas de Jésus. Cette parole est le début du psaume 21. Voilà. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, un des psaumes que je vous ai distribué une des fois précédentes, et, bon, on ne va pas le relire entièrement, mais qui est vraiment une prophétie de la passion vraiment très vraiment extraordinaire. Alors, comme... Et les Juifs le connaissaient très bien, tout le Juif pieux le connaît par cœur. Alors, la Bible chrétienne, je trouve, tient un équilibre qui me paraît bon. Elle dit, il ne faut pas voir dans ce cri de Jésus un cri de désespoir. Parce que, déjà, quand on s'adresse à Dieu, c'est qu'on continue d'espérer. Et puis, surtout, parce que le Christ va ressusciter, le Christ est le Fils de Dieu, comme en témoigne le centurion païen, et donc, on ne peut pas imaginer, évidemment, que le Fils de Dieu doute de l'existence de Dieu. Donc il sait que Dieu existe, il sait que son Père est là. Donc ce n'est pas un cri de désespoir. Après, on ne peut pas non plus dire uniquement Jésus entonne un psaume, alors effectivement, qui est un psaume qui se termine par des accents de confiance et de triomphe, mais on ne peut pas uniquement dire voilà, Jésus entonne un psaume, point, circuler, il n'y a rien à voir. Ce cri, il est le cri d'un homme dont saint Paul nous dit qu'il s'est fait péché et malédiction pour nous. C'est-à-dire que Jésus est Dieu, Dieu le Fils, qui se fait homme, qui parce qu'il est Dieu, évidemment, est sans péché. Jésus n'a jamais fait de péché puisqu'il est Dieu et que sa volonté humaine est parfaitement accordée à sa volonté divine. Donc Jésus n'est pas pécheur, mais Jésus s'est fait péché. Et les mots sont importants. Jésus n'est pas maudit. Jésus est le béni par excellence. Mais Jésus s'est fait malédiction. C'est-à-dire que Jésus, à partir de l'agonie à Gethsémani, prend sur lui tous nos péchés. C'est-à-dire qu'il se fait, devant son Père, responsable de tous nos péchés. Il répond de tous nos péchés. Selon la formule que j'ai souvent citée, d'un père de Flavigny, Jésus devient le collecteur d'égouts des péchés du monde entier, de toute l'histoire. Donc dans son âme humaine, il voit ses péchés, il les voit dans toutes leurs horreurs, dans toutes leurs malices, dans toutes les noirceurs, et non seulement il les voit, mais il les prend sur lui. Non pas en tant qu'il les a faits, puisqu'il est sans péché, mais en tant que devant Dieu le Père, il en répond pour pouvoir les détruire. Et donc, dans la majeure partie de son âme, à part la fine pointe qui reste dans la vision béatifique, qui reste unie au Père et qui reste dans le bonheur, donc il faut le dire aussi que Jésus est heureux durant toute sa passion, mais cette joie, ce bonheur d'être le Fils du Père, d'être uni au Père, d'être aimé du Père, n'est contenu que dans la fine pointe de son âme, c'est-à-dire dans la partie la plus spirituelle, la plus reliée à la divinité. En revanche, dans toutes les zones inférieures de son âme, donc toutes les zones qui sont de l'ordre de la psychologie, de l'ordre de la sensibilité, le Christ éprouve dans ces zones-là à la fois bien, un immense dégoût devant le péché, devant les trahisons, devant aussi tout ce que nous, chrétiens, bien, nous continuons de faire, bien que nous sachions tout ce que le Christ a enduré pour nous. Il éprouve évidemment une immense tristesse devant ce spectacle, et il éprouve aussi, d'une certaine manière, ce qu'éprouve le pécheur qui est séparé de Dieu. Non pas en tant qu'il est lui-même pécheur, mais en tant qu'il répond devant Dieu le Père de tous nos péchés. Et qu'il sait que le péché est absolument incompatible avec la sainteté de Dieu. Et donc au moment de sa passion, en tant qu'il assume et qu'il prend sur lui tous nos péchés, il accepte que toute cette partie de lui-même qui prend sur lui le péché, eh bien, soit en quelque sorte, à distance du Père. Parce que Dieu est totalement innocent du mal. Et donc Dieu ne peut avoir aucun contact avec le mal et avec le péché. Et donc le Christ, pendant sa passion, est partagé, comme on peut l'être aussi, comme certains saints l'ont raconté. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans la plus grande tristesse et en même temps dans une profonde joie, mais une joie uniquement spirituelle qui n'a aucun retentissement sensible. Alors, on voit ça par exemple, chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ou chez Mère Teresa. Ou, voilà, où il y a à la fois une immense épreuve spirituelle, une épreuve, un désert, une obscurité, vraiment l'impression d'être séparé de Dieu. Sainte Thérèse disait qu'elle avait l'impression qu'il y avait un mur entre elle et le ciel. Et en même temps, dans la foi, malgré tout, la conscience d'être infiniment aimé de Dieu et ce qui met dans la joie. Et donc, bon, le Christ, sinon, il n'a pas la foi, donc ce n'est pas la même chose que les saints. Le Christ, il est dans la vision, mais c'est un petit peu du même ordre. C'est-à-dire que dans la fine pointe de l'âme, il a la vision béatifique et il sait qu'il est le Fils du Père, il sait qu'il est aimé du Père et il sait qu'il fait la volonté du Père et qu'il fait le salut des hommes. Et ça, ça le met dans le bonheur. Et en même temps, dans tout le reste de son âme, eh bien, il est à la fois dans cette tristesse, ce dégoût, et il expérimente d'une certaine manière la séparation que connaît le pécheur, qui lorsqu'il a fait un péché grave et qu'il a un peu de catéchisme, sait qu'il est complètement séparé de Dieu. Et il éprouve cela.
Et la souffrance physique aussi, j'imagine, quand notre Seigneur a eu une souffrance physique gigantesque, est-ce que ça n'a pas aussi accentué cette séparation, enfin, est-ce qu'on peut le mettre en parallèle de ce dégoût du péché
Oui, alors c'est sûr que le Christ en souffrant s'unit à tous les souffrants du monde. Mmh. Il pense à tous ceux qui ont souffert, qui souffrent et qui souffriront. Et donc il s'unit à eux dans leur souffrance, justement pour ne laisser personne en quelque sorte souffrir seul, que toute personne qui souffre puisse se dire, et pas, c'est pas une vue de l'imagination, c'est une réalité, que le Christ, eh bien, a souffert avec moi et que je peux souffrir avec lui. Et c'est vrai que ce « Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné ?» il est le cri de toute personne qui souffre, en fait. C'est-à-dire que toute personne qui souffre pose la question du pourquoi, et puis a cette impression d'être abandonné de Dieu, au sens où, ben, quand je souffre, je constate concrètement que Dieu n'intervient pas tout de suite pour lever ma souffrance. Et donc il y a cette question, alors au niveau de la sensibilité, pas au niveau de la foi, où dans la foi on sait que Dieu est là, que Dieu nous accompagne, je sens que le Christ est avec nous, mais c'est vrai que en premier mouvement de la sensibilité, dès qu'on souffre beaucoup, en tout cas, je pense que le commun des mortels, peut-être que vous êtes au-dessus, mais le commun des mortels, je pense, dans le premier mouvement de la sensibilité, se dit, mais pourquoi mon Dieu et où êtes-vous mon Dieu?
Qu'ai-je fait au bon Dieu?
Qu'ai-je fait au bon Dieu et pourquoi moi? Enfin, toujours ce quand une épreuve vraiment nous traverse, pourquoi moi? Et pourquoi si longtemps? Pourquoi ça dure? Pourquoi Dieu ne lève-t-il pas cette souffrance? Et donc c'est sûr que dans ce « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» le Christ s'unit aussi à tous les souffrants du monde et notamment à ceux qui souffrent la souffrance physique. Mais plus profondément, il y a cette idée de vivre jusqu'au point où c'est possible quand on est Dieu, cet état de séparation du pécheur avec Dieu qui devrait être en tout cas notre plus grande souffrance.
Ça va voir, comme vous disiez, avec l'incarnation.
Voilà. Et c'est là où on voit que le Christ s'est fait homme jusqu'au plus profond où il pouvait aller, sans cesser un instant d'être Dieu. Alors, le cardinal Journet a une très belle image, il dit « L'âme du Christ, à ce moment-là, c'est comme une montagne. Au sommet de la montagne, la clarté de l'aurore brille déjà, mais la base de la montagne est encore plongée dans l'ombre. » Finalement, c'est assez beau comme image. Cette idée qu'au sommet de l'âme du Christ, il y a cette joie, mais que tout le reste est plongé dans l'ombre. Donc, voilà, ce « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est effectivement à la fois le Christ assume le psaume, montre comment le psaume s'accomplit dans sa passion et annonce d'une certaine manière déjà sa résurrection, parce que ce psaume se termine dans la confiance et dans la joie. Dans ce cri, le Christ assume et s'associe au cri des souffrants du monde entier. Et puis, le Christ parce qu'il s'est fait péché pour nous, eh bien, dans ce cri, traduit ce qu'il vit dans toute une partie de son âme, à savoir ce sentiment de dégoût, de tristesse, et aussi d'abandon par rapport à Dieu, tout en étant lui-même Dieu. Il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Parce que c'est très à la mode aujourd'hui de dire que le Christ a souffert les peines de l'enfer. Alors, là, on est parti dans de la poésie hérétique, plus. Alors, ça fait très poétique comme ça, c'est très joli, etc. Oui, etc. Mais non, le Christ est dans la gloire du paradis, même sur la croix. Alors, à minima, on dit aussi que le Christ a souffert ce que souffre le pécheur séparé de Dieu. Alors, là encore, il faut mettre les bémols sérieusement. Donc, j'ai, pour ainsi dire, en quelque sorte, dans une partie de son âme, oui, mais de but en blanc, dire ça, c'est faux. Le Christ n'a pas fait de péché, donc sa souffrance n'est jamais celle d'un pécheur qui aurait péché. Enfin, il assume les péchés de l'humanité, mais en tant que Dieu, évidemment, il n'a pas fait de péché, et donc il ne peut pas vivre pleinement la souffrance d'un pécheur. Enfin, pas tout à fait la même chose. Donc voilà, il faut faire très attention, parce qu'on a vite fait de partir un peu dans les choses. C'était Calvin, je crois, qui disait que le Christ avait enduré les peines de la damnation sur la croix. Après, c'est pas forcément votre auteur de prédilection, ni le mien. Et plus gênant, je crois que c'est Balthazar, le cardinal Balthazar, qui a une influence assez énorme sur beaucoup de théologiens de la deuxième partie du XXe siècle. Et je crois, je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est lui qui disait que le Christ avait éprouvé sur la croix une réelle séparation d'avec son Père. Et que le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» traduisait une réelle séparation momentanée, mais une réelle séparation avec son Père. Alors c'est un peu embêtant, parce qu'être séparé de Dieu, je pense que ça s'appelle le péché. Donc, voilà, je ne peux pas imaginer que quelqu'un soit séparé de Dieu sans qu'il ait fait de péché. Donc, là encore, on est un peu dans la poésie. Balthazar était très poète, mais si on pousse jusqu'au bout les idées, on en arrive à l'idée que le Christ a fait un péché grave. Quoi. C'est un petit peu embêtant. Quoi.
Et pourtant, il ne peut pas se séparer de lui-même.
On peut difficilement admettre qu'il se sépare de lui-même.
C'est, ouais. Quand même...
c'est pour ça qu'on dit qu'il se sépare du Père.
Il est schizophrène.
Le Christ a dit aussi, le Père est en moi, je suis dans le Père.
Alors, le Père et moi, nous sommes un. Oui, bah c'est, oui. Sûr. C'est pour ça qu'en théologie catholique, Cardinal Journet et bien d'autres, tiennent cette idée de, à la fois que le Christ est au summum de la joie, parce qu'il reste uni au Père, et aimé du Père, il reste dans la communion trinitaire, et qu'en même temps, dans les parties plus de la sensibilité, de la psychologie, eh bien là, il expérimente, en revanche, cette désolation profonde, à la fois à la vue des péchés, et à la fois en tant que répondant de nos péchés devant le Père, il expérimente d'une certaine manière cette séparation que le pécheur éprouve, mais seulement d'une certaine manière.
Est-ce que ces paroles peuvent être considérées comme un témoignage ou éventuellement même un enseignement?
Moi je pense que même si c'est une parole difficile à entendre, c'est sûr que ça aurait été dommage que l'évangéliste ne la retranscrit pas, parce que justement elle nous dit quelque chose de très profond sur la vérité de l'humanité de Jésus, et puis surtout sur son dessein rédempteur qui est de nous sauver en prenant vraiment sur lui nos péchés. C'est-à-dire que le Christ ne dit pas seulement vos péchés sont pardonnés, on tire un trait dessus et puis on recommence à zéro. C'est-à-dire que non, c'est un double mouvement. C'est-à-dire que pour nous faire participer de cette joie d'être fils de Dieu, eh bien, il se fait vraiment homme, il se fait vraiment notre frère, et en tant que notre frère, il prend sur lui tous nos péchés pour les détruire dans son amour infini. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il dit, les péchés, on les oublie, c'est que ces péchés, ils sont détruits parce qu'ils ne peuvent pas tenir, en quelque sorte, devant l'amour infini du Christ. Mais il faut qu'il y ait dans la même personne et cet amour infini et ses péchés. Voilà, pour que les choses aillent vraiment jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire, c'est pas seulement voilà, moi, Jésus, qui suis au-dessus de vous, j'aime énormément mon Père, et donc, je vous donne des petites miettes d'amour là, pour que vous pardonniez vos péchés. C'est moi, Jésus, qui suis vraiment homme, je suis solidaire de toute l'humanité, solidaire de tous les péchés de l'humanité, et en moi, eh bien, je présente en quelque sorte au Père les péchés de toute l'humanité, et chacun de nos péchés, et mon amour infini de Fils, pour que finalement, eh bien, tous les péchés de l'humanité, comme une goutte d'eau dans un brasier ardent, eh bien, disparaissent. Alors, pour qu'ils disparaissent pleinement, évidemment, ensuite, il faut que chacun de nous s'associe à cette rédemption par le sacrement de confession, notamment, pour recevoir la miséricorde de Jésus. Mais déjà, sur la croix, Jésus prend sur lui l'intégralité des péchés de l'humanité, parce que il n'y a que lui qui puisse produire un acte d'amour infini qui viendra surcompenser l'horreur de tous ces péchés et tous ces péchés qui sont justement autant de manque d'amour. Et donc il faut que ce soit la même personne qui à la fois aime d'un amour infini et assume et réponde de tous ces manques d'amour innombrables que sont les péchés. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? D'une certaine manière, il nous renseigne justement encore plus sur le fait que Jésus prend sur lui nos péchés et, comme le dira saint Paul après, puisqu'il a, dans la lumière de l'Esprit Saint, creusé ce mystère de la passion, qu'il s'est fait péché pour nous.
S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dire que Dieu a envoyé son Fils, son incarnation, parce que les hommes parlaient à la place de Dieu ? Dieu a voulu envoyer le Verbe s'est fait chair. Vous voyez ce que je veux dire, que comme les hommes ne voyant pas Dieu ont tendance à parler à la place de Dieu et à faire dire à Dieu un petit peu ce qui les arrange, du coup dans son projet Dieu a envoyé son Fils de chair et d'os jusqu'à la fin, jusqu'à la croix, pour faire taire les hommes qui parlaient à sa place.
C'est une des grandes raisons de l'incarnation, oui. C'est qu'à la fois, déjà dans la personne de Jésus et dans la manière dont Jésus a vécu, on voit comment Dieu veut qu'on vive. Donc la vie de Jésus, même sans que Jésus dise un mot, est déjà un enseignement que Dieu nous donne. Et puis effectivement, à travers les paroles de Jésus, puisque c'est Dieu lui-même qui parle, c'est sûr que la révélation, c'est-à-dire ce dialogue entre Dieu et les hommes, arrive vraiment à son sommet, puisque là, ce n'est pas un homme qui parle à la place de Dieu, ce n'est pas un ange qui parle à la place de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle à travers nos mots humains. Donc c'est sûr que cette parole de Jésus, elle a un poids divin, elle a une autorité divine, et effectivement, du coup, toutes les paroles humaines, ensuite, doivent se caler sur cette parole divine. Si elles sont en accord avec la parole de Jésus, elles sont bonnes. Si elles sont contre la parole de Jésus, elles sont mauvaises. C'est un peu la parole de Jésus qui donne le ton. Parce qu'il est le Verbe fécheur. Ouais.
Oui. Sans l'incarnation, c'est facile de faire dire à Dieu ce qu'on veut. Avant.
Alors après, Dieu apparaît aussi avant l'incarnation par ses prophètes et il a envoyé justement des signes pour authentifier ceux qui étaient un peu ses porte-paroles, les miracles, les prophéties, etc. Mais c'est sûr que l'autorité maximale est évidemment celle de Jésus, puisque c'est Dieu lui-même.
Après ces dernières paroles, du Christ, sur la croix, ces dernières paroles, je pose la question, quelles seront ses premières paroles lorsqu'il reviendra?
On est parti, je ne sais pas s'il parlera beaucoup d'ailleurs quand il reviendra, mais. Et faites bien d'ailleurs de parler des dernières paroles du Christ en croix, parce que c'est aussi un des arguments forts qu'il faut amener justement par rapport aux personnes qui penserait que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné est une parole de désespoir et d'abandon total. C'est-à-dire que la dernière parole du Christ en Saint-Luc, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». C'est une parole de totale confiance. Et la dernière parole en Saint-Jean, c'est « Tout est consommé », qui est aussi une parole très paisible, voilà, dans laquelle le Christ, eh bien, contemplant son œuvre achevée, là aussi, eh bien, dit ben « voilà, ma mission est accomplie en quelque sorte ».
Est-ce que c'est lui qui choisit le moment où il meurt? Ou est-ce que c'est lui qui choisit
C'est-à-dire que la mort du Christ, enfin la mort par crucifixion, normalement, est beaucoup plus longue que 3 heures, enfin que 6 heures, ça dépend dans quel évangile on prend la chronologie. Et puis, le fait que le Christ pousse un grand cri, normalement, est impossible, justement, pour un asphyxié crucifié. Et c'est sans doute, pas le seul élément, mais c'est sans doute un des éléments qui entraîne l'acte de foi du centurion qui a dû voir pas mal de crucifiés mourir et qui n'en avait jamais vu un qui pousse un grand cri. Alors, bon, ça c'est des éléments un petit peu, un peu physiques, mais c'est vrai que la mort n'a pas pouvoir sur le Fils de Dieu. Donc c'est pas la mort, c'est pas la déchéance corporelle qui, à un moment, signe la fin de la vie de Jésus. C'est, on peut dire d'une certaine manière, c'est quand l'amour du Christ pour son Père et pour les hommes est arrivé à son apogée, que l'âme du Christ se détache de son corps. Ce qu'on appelle la mort d'amour. En fait. La mort d'amour des saints, c'est ça. C'est-à-dire que la mort d'amour chez les saints, tous les saints ne meurent pas ainsi, mais certains oui. La mort d'amour, c'est quand le désir de voir Dieu et de rejoindre Dieu est à ce point brûlant que, en quelque sorte, eh bien, Dieu met fin à la vie du saint en attirant à lui son âme et en ne laissant sur terre que le corps. Alors, évidemment, pour le Christ, c'est un petit peu différent parce qu'il est uni à son Père, comme on l'a dit, depuis sa conception, mais il y a quand même une gradation dans l'amour, puisque lui-même le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donc on peut penser que dans cette passion, il y a l'amour du Christ s'enflamme encore plus, à la fois pour son Père et pour les hommes qu'il sauve, et qu'à partir d'un certain degré d'amour, l'âme du Christ, justement, quand tout est accompli, alors après, c'est sûr qu'on n'a pas un thermomètre pour mesurer la mort du Christ et dire, c'est la bonne température. Donc, on ne saura jamais pourquoi à ce moment-là et pas 5 minutes avant ou 5 minutes après, mais dans la sagesse du Père, vient le moment où, effectivement, le Christ remet son âme entre les mains de son Père. Et à ce moment-là, c'est la mort humaine, c'est la séparation de l'âme et du corps.
Les 7 paroles du Christ, moi j'ai entendu. Dire en disant maintenant ce n'est pas possible, avec quelqu'un qui est en plus devant un calvaire, c'est un peu gênant, en disant c'est pas possible parce qu'on dit que les crucifiés n'ont pas pouvoir de suffoquer, ne pouvaient pas parler. Alors j'ai souligné qu'il n'y avait que cette parole, hein, c'était pas non plus un discours. Mais quand même, alors est-ce que justement c'était pour manifester aussi la divinité dans la
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que après, moi, je méfie un peu sur ce côté. Ce serait absolument impossible, effectivement, à la mesure où le bon larron, le mauvais larron arrive à parler.
Qu'est-ce qui est impossible à Dieu?
C'est le démon qui.
Non, on va peut-être pas partir sur le fait que c'est le démon qui fait parler. Je suis pas sûr que le démon ait le pouvoir de leur faire de leur donner comme ça. Mais après, il faudrait voir par exemple des crucifixions romaines, par exemple Spartacus et tout. Est-ce qu'il parlait, est-ce qu'il parlait pas? Il faudrait prendre aussi d'autres exemples de crucifiés. Parce que déjà, ça me paraît difficile d'affirmer de manière péremptoire que ce serait impossible. Et puis, bon, en plus, c'est ce qu'on vient de dire, déjà, le grand cri, effectivement, normalement, n'est pas possible. Alors, le Christ le pousse un grand cri. Bon, d'autant que les paroles du Christ sont vraiment des petits mots, quand même. « J'ai soif », en moyen araméen, ça fait un mot. « Voici ta mère », ça fait 3 mots. « Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est dit vraiment au moment du crucifiement. Donc je ne pense pas que l'argument, et puis on peut penser que le Christ n'est pas non plus dit forcément très très fort. Enfin, donc, moi, je ne pense pas qu'on puisse partir voilà, de manière très péremptoire.
Est-ce qu'on peut parler de la séparation de l'âme et du corps pour le Christ?
Oui. Mais alors, à 9h30, si vous êtes encore réveillé, l'âme et le corps du Christ sont séparés, mais la divinité, elle, continue d'être et dans l'âme et dans le corps. C'est-à-dire que le corps du Christ, si vous rentrez dans le sépulcre le samedi saint, vous vous mettez à genoux parce que Dieu est là. Parce que la personne du Fils, donc Dieu le Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, continue d'assumer ce corps. Ce corps est vraiment le sien. Donc la divinité continue d'habiter ce corps. C'est pour ça que le corps du Christ n'aurait jamais pu se corrompre, même s'il était resté 3 ans dans le tombeau. Parce que la présence de la divinité aurait fait qu'il n'aurait pas pu se corrompre. Donc l'âme du Christ descend aux enfers, voir les patriarches, elle est assumée par Dieu le Fils. Dieu le Fils est vraiment là, il descend aux enfers, retrouver Abraham, Moïse et David. Et puis le corps du Christ, au sépulcre, est assumé par la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc, il reste le corps du Fils, et donc, la divinité est là aussi. À 9h30, c'est pas mieux. Monsieur Kiffer, vous aviez une question?
Non. Les 7 paroles du Christ, je pense que c'est justement parce qu'il ne pouvait pas parler longtemps.
Oui.
Il faut qu'il reprenne son souffle.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il y a des petits morceaux de paroles. Parce qu'il ne pouvait pas faire de grandes phrases.
Ouais.
Bon, 7, c'est un chiffre parfait, d'accord, mais...
Ça tombe bien, du coup.
Oui. Mais il faut qu'il reprenne son souffle pour parler, d'après ce qu'on lit.
C'est sûr que c'est une mort par asphyxie. Hein, donc c'est sûr qu'il y a un enjeu de souffle qui est quand même fondamental. Hein.
Et pourquoi, peut-être dans la réponse, l'ayant entendu que... Quelques-uns disaient, voilà qu'il appelle le prophète Élie.
Oui.
Il y a deux langues, il y a l'araméen puis l'hébreu.
Oui, alors on pense quand même que c'est un peu par dérision sur Eloi, Eloi, parce que, bon, malgré tout, Eloi ou Elaï, ça reste assez loin du mot araméen pour dire Élie le prophète, qui est Eliyahu. Donc, bon, c'est quand même un peu différent. Donc, on pense que c'est uniquement par dérision, c'est-à-dire que Jésus dit Eloi, Eloi, donc ce qui veut dire pour le coup mon Dieu, mon Dieu, mais que comme Élie était considéré comme celui qui reviendrait pour préparer le chemin du Messie, certains disent qu'il était aussi un peu considéré par les Juifs comme un peu une espèce de saint patron des mourants, bon, je ne vais pas vérifier. Du coup, pour un Juif un peu calé, ça le fait rire en fait que. Il y a un son qui se rapproche de Élie. Voilà. C'est plus par dérision qu'autre chose. Aucun juif, normalement, ne pense que Jésus, à ce moment-là, s'adresse à Élie. Parce que le mot araméen pour dire Dieu est quand même assez éloigné du mot araméen pour dire Élie. Et même si on considère que Jésus, effectivement, est peut-être très essoufflé, qu'il y a peut-être du bruit, etc. L'idée est quand même plutôt que c'est par pure dérision, justement au nom de ces croyants juifs, à la fois d'Élie qui assiste les mourants et d'Élie qui devait revenir pour préparer le chemin du Messie. Et donc, en gros, le Messie va mourir dans 2 minutes. On va voir si Élie va venir dans les 2 minutes qui arrivent pour l'aider. Quoi. Voilà. On terminera peut-être la prochaine fois sur le centurion, et puis je vous vais peut-être monter pour notre moment de prière, hein, sauf s'il y a des questions. Paroles, des questions. Eh bien, montons. Vous pouvez garder l'évangile. Hein. Ça peut être un souvenir de 2 enfants.
Oui, ils avaient vraiment bien compris.
Voilà. Il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Hein. Ouais. C'est pas ça, il fallait qu'il meure. Ah oui, on nous sauve.
C'est sûr qu'il fallait qu'il meure pour nous sauver, ça n'enlève pas la responsabilité immense de ceux qui l'ont fait. Parce qu'il y a des thèses aussi comme ça qui disent que Judas était l'apôtre préféré de Jésus, puisque c'est celui qui a précipité sa mort, or Jésus était venu pour mourir. Une espèce de flou total. C'est alors que Jésus dit, hein, il faut que des scandales arrivent, c'est-à-dire malheureusement c'est nécessaire qu'il y ait des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Il faut qu'effectivement, pour que les Écritures s'accomplissent, que Jésus donne sa vie, mais ça n'enlève absolument pas la responsabilité personnelle de tous ceux qui vont concourir à la mort de Jésus. Ouais.
Moi j'avais entendu aussi que ce fameux René Girard, qu'en fait c'était avec le Christ, c'était la mort du monde cyclique, où avant on faisait un petit peu, pas dire de gros mots, on pêchait même collectivement et qu'on se trouvait un bouc émissaire, c'était avant, un bouc émissaire souvent parfait, comme le bouc émissaire qu'on brûlait en dehors de la ville, et que là, avec Jésus, ils sont tombés sur Dieu, que c'est la fin du monde cyclique, que maintenant le christianisme est un monde linéaire, avec des hauts et des bas. Ça va s'arranger. Ouais. Avec des hauts et des bas dans la.
Mais.
Un monde linéaire qui ne s'arrête jamais. Qui n'a pas de fin.
Eh bien, nous en reparlerons au prochain épisode. Quand j'aurai creusé un peu René Girard, parce que je le connais très mal. Ah oui, ben voilà quelqu'un qui suit les affaires.
Il y a un petit travail.
Eh oui! Le professeur qui donne les devoirs. On lit jusqu'au chapitre 16. Ah, je ne sais pas jusqu'où vous deviez lire.
Non, on devait lire jusqu'à.
On devait lire jusqu'à vraiment cet homme était fils de Dieu.
Ah bon, eh ben, on lira, vous lirez jusqu'au numéro 47. 47 maintenant. Voilà. Progresse petit à petit.
Avant toutes les vacances.
Exactement, parce que la prochaine école de prière, c'est le jeudi 5 novembre, je crois.
La rentrée.
Ouais, à la semaine de la rentrée. Donc, jeudi 5 novembre, lire la fin du chapitre 15 et on s'arrête au début du chapitre 16. Non, il n'y a pas de subtilité. Subtilité, c'est qu'il n'y a pas de subtilité.
On s'est cassé la tête pour rien.
C'est subtil quand même qu'il n'y ait pas de verset 28.
Ouais, mais
on sait que c'est des points. Attends, il n'y aura pas les numéros.